Le journal des idées.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
C'est la deuxième édition des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, dont il sera d'ailleurs question à 7h40 et à 8h15 dans les matins. Et l'actualité syrienne s'est invitée à ces rendez-vous de l'histoire du monde arabe.
Et oui, et ce, dès aujourd'hui, Guillaume, sur la question des réfugiés en Jordanie. Dans l'Obs, Yassine Elhadj Saleh, l'une des grandes figures de l'opposition syrienne, 16 ans de prison sous la dictature de Hafez el-Assad, exprime son incrédulité face aux discussions de Genève. Le régime n'a jamais fait aucune concession à l'opposition en 40 ans d'existence. Pour l'opposant communiste, le régime temporise. L'idée même qu'il soit prête à négocier, selon lui, inconcevable quand on connaît l'histoire de la Syrie. De même, ajoute-t-il, il est impossible d'en finir avec le terrorisme islamiste en s'alliant avec Bachar al-Assad. Si l'État islamique a pu prendre cette ampleur, c'est grâce à lui. Rappelant qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les méfaits de Daesh et ceux du régime et que les décapitations, même si elles sont spectaculaires, ne représentent que peu de choses face aux 300 000 morts causées par, je cite, la violence inouïe du régime d'Assad, Yassine Elhadj Saleh évoque son passage à la prison de Palmyre. Le nombre des détenus islamistes était bien supérieur à celui des autres prisonniers politiques. Leurs conditions de détention inhumaines que j'ai partagées pendant un an ont certainement contribué à les radicaliser. Le sociologue et écrivain originaire de Raqqa, dont les deux frères ont été enlevés par Daesh, cite le témoignage de l'un d'entre eux lorsqu'il était torturé. « De quoi te plains-tu ? Lui disaient les soldats de l'État islamique. Ce que nous te faisons ne représente même pas le quart de ce que nous avons subi dans la prison de Saïd Naya, près de Damas. Saïd Naya, que Eddie Hawidj appelle la couveuse de Daesh, dans la revue 21, il raconte les 100 jours passés après le printemps de Damas par Abdallah, un étudiant syrien, dans la cellule où se trouvent de futurs hauts responsables de l'organisation État islamique, notamment Ali Moussa al-Shawak, alias Abu Lukman et Abu Ali al-Anbari. Il suffit de faire un tour sur Internet pour me prendre la mesure de l'importance de ces personnages. En 2011, au début de la révolution syrienne, les prisonniers de Saïd Naya sont tous amnistiés sur décision de Bachar el-Assad. Aussitôt libres, les islamistes vont constituer l'ossature des mouvements djihadistes qui fusionneront avec l'État islamique en Irak.
Afghanistan, Irak, Syrie, Jacques Munier, où la guerre sans fin, résume Alain Frachon dans Le Monde.
Oui, il revient sur la question lancinante de la politique étrangère dans la campagne électorale américaine. Pourquoi l'Amérique est-elle sans cesse en train de guerroyer au Grand Moyen-Orient, alors que paradoxalement elle aimerait tant se désengager ? L'attitude de Barack Obama est en cause, même si l'entourage du président a beau jeu de rappeler les leçons de la désastreuse aventure irakienne de 2003 et le chapitre de chaos sanglant qui ravage encore la région et nourrit la bête djihadiste. Mais si l'on peut convenir que l'outil militaire n'est pas l'instrument le plus performant pour assurer la défense des intérêts américains au Moyen-Orient, la prudence de l'administration Obama, cette sorte de ni retrait complet, ni engagement militaire massif, donne au final cette impression d'une situation guerrière permanente, de bataille jamais vraiment perdue, mais jamais vraiment gagnée non plus. À propos de la Syrie et des pourparlers de paix, le correspondant à Beyrouth du quotidien du Soir évoquait jeudi une guerre par défaut. Aucun des deux camps ne semble à même de prendre un ascendant décisif, observait-il. Mais ce constat ne suffit pas à débloquer les négociations. L'opposition, avec le soutien de ses protecteurs arabes, Arabie Saoudite et Qatar, et occidentaux, France et Royaume-Uni, s'accroche à une exigence, le départ d'Assad sans rapport avec ses capacités militaires, et le régime, encouragé par son patron iranien, dédaigne toute idée de transition post-Assad au nom d'une illusoire reconquête de tout le territoire. Malgré les efforts de Mistura pour concocter un compromis, ce double déni garantit l'échec des négociations. Conclusion de Benjamin Barthes, pour l'instant, il n'y a plus de solution, pas plus de solution militaire que de solution politique. Dans une telle situation, la guerre s'impose par défaut.
Et c'est exactement le genre de situation que l'ONU a souvent eu à démêler. L'organisation doit renouveler son secrétaire général. Le mandat de Ban Ki-moon arrive à échéance.
Oui, et pour renverser la formule qui veut que le numéro 1 des Nations Unies soit plus un secrétaire qu'un général, certains, face aux défis actuels, souhaitent bien plus un général qu'un secrétaire. Dans l'Humanité, l'historienne Chloé Morel plaide pour une élection véritablement démocratique, même s'il y a certains progrès, dans la parité notamment. Une vraie campagne électorale relayée par les médias, concernerait davantage la population mondiale et la personne investie gagnerait en légitimité.